Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 15 mars.
Yoon Suk-yeol ambitionne d'installer un méga cluster de semi-conducteurs en banlieue de Séoul. Covid-19, fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun lundi prochain. Sommet Yoon Kishida, pas de déclaration conjointe prévue. Et enfin Netflix, la saison 2 de The Glory en tête du classement des contenus télévisés non anglophones.
Le président de la République a comparé la situation actuelle des industries de pointe à un champ de bataille économique. Yoon Suk-yeol a annoncé ce matin soutenir les secteurs privés avec l'investissement de 550 000 milliards de won, l'équivalent de 393 milliards d'euros d'ici 2026 dans six domaines clés. Les semi-conducteurs, les écrans, les accumulateurs électriques, la bio-industrie, les voitures du futur et enfin la robotique. En premier, une enveloppe de 300 000 milliards de won ou 214 milliards d'euros sera dédiée à la création du plus grand cluster de semi-conducteurs sans mémoire au monde dans la région métropolitaine de Séoul. Le chef de l'État a affiché sa volonté de développer cette installation au niveau mondial en partenariat avec les complexes de puces mémoire déjà existants et plus de 150 entreprises de matériaux, de pièces détachées, d'équipements. Le cluster en question sera construit à Yongin, dans la province de Gyeonggi, pour faciliter la collaboration avec les installations de production qui se trouvent déjà à Kyung, Hwasong et Pyeongtaek, ville abritant les centres de recherche et nouvelles technologies situées dans cette province. Par ailleurs, des complexes industriels de pointe seront installés dans 14 régions. Yoon a affirmé lever les restrictions sur l'utilisation des terres pour permettre à chacune d'entre elles de promouvoir les secteurs pour lesquels elles représentent un avantage comparatif. Par exemple, la ville de Daejeon se concentrera sur les nanotechnologies et les semi-conducteurs, tandis que Daegu dans le sud-est sur les voitures du futur et de la robotique.
Le port obligatoire du masque dans les transports publics sera levé lundi prochain en Corée du Sud après 2 ans et 5 mois de restrictions. Les autorités sanitaires ont expliqué que les nombres quotidiens de nouveaux cas et de patients hospitalisés en soins intensifs avaient baissé, respectivement de 38 et 55%, avant d'ajouter qu'aucun nouveau variant n'a été signalé. Elle recommande toutefois aux utilisateurs des transports en commun pendant les heures de pointe, aux personnes à haut risque et à celles ayant des symptômes de rester masquées. Ainsi, l'obligation de port du masque deviendra seulement une recommandation. Le gouvernement a décidé également de supprimer l'obligation de porter le masque dans les pharmacies situées au sein des grands établissements, tels que les grandes surfaces et les gares. Les autres pharmacies seront toujours soumises à cette mesure. Il en est de même pour les structures de soins et à haut risque de transmission du Covid-19. Par ailleurs, les transferts en ferry entre la Corée du Sud et la Chine reprendront progressivement dès lundi prochain. Le siège centrale de lutte en cas de catastrophe et de sécurité a fait savoir que les autres mesures sanitaires restantes seraient modifiées l'une après l'autre. Son plan d'ajustement sera annoncé à la fin du mois de mars. Côté bilan, un total de 11 899 nouvelles contaminations ont été recensées au cours de ces dernières 24 heures au pays du matin clair. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs s'est élevé à 147 et 10 décès supplémentaires ont été enregistrés.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Et nous enchaînons avec la visite du président de la République au Japon. Après le sommet bilatéral prévu demain à Tokyo, aucune déclaration conjointe ne sera publiée. Le bureau présidentiel de Yongsan a annoncé aujourd'hui que le chef de l'État sud-coréen Yoon Suk-yeol et le premier ministre japonais Fumio Kishida donneraient juste une conférence de presse. Selon un responsable de la présidence, les deux nations ont vu leurs relations s'envenimer depuis plus de 10 ans, allant même jusqu'à perdre une confiance mutuelle après 2010. 2018 à la suite d'une série d'affaires conflictuelles. Il a alors expliqué que demain, les dirigeants se retrouveraient enfin après tant de tensions. Tout en indiquant que cette rencontre marquerait un nouveau point de départ entre Séoul et Tokyo et qu'un comité destiné à préparer leur nouveau plan d'avenir pourrait être fondé à cette occasion-là, il a expliqué que cela pourrait rendre possible une déclaration conjointe prochainement.
Le Premier ministre japonais pourrait quant à lui se rendre cet été en Corée du Sud et ce suite au sommet du G7 prévu en mai à Hiroshima. C'est ce qu'a rapporté mardi Kyodo News. Selon l'agence de presse Nippon, Fumio Kishida aurait l'intention d'accélérer l'amélioration des relations Séoul-Tokyo à l'occasion de la visite du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. La diplomatie dite de navette devrait être relancée après quasiment 12 ans d'arrêt. Par ailleurs, Kyodo News a expliqué que Kishida appréciait la solution d'indemnisation des victimes du travail forcé au Japon durant la Seconde Guerre mondiale proposée par l'administration Yoon, avant d'ajouter que son voyage aurait lieu entre juillet et septembre. L'agence de presse a toutefois rappelé qu'il resterait à surveiller l'opinion publique sud-coréenne pour fixer la date, car certains plaignants refusent d'accepter la solution et le Minju, le premier mouvement de l'opposition, s'y oppose lui aussi fermement.
Et nous enchaînons avec un tout autre sujet. La Corée du Sud a décidé d'envoyer une aide humanitaire d'un montant de 200 000 dollars au Vanuatu qui a été frappé au début du mois par deux cyclones tropicaux. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Judy et Kevin sont les noms de ces cyclones qui ont balayé l'état insulaire du Pacifique. Et ces derniers ont affecté quelque 270 000 personnes, soit 80% de la population, et provoqué des pannes d'électricité et d'eau dans tout le territoire. Séoul espère que ce soutien permettra aux sinistrés de reprendre rapidement leur vie quotidienne et de se remettre des dégâts.
En février, le nombre de personnes employées en Corée du Sud a augmenté de 312 000 en glissement annuel, enregistrant la hausse la moins importante en 2 ans. Sa progression a ainsi ralenti pour le 9e mois consécutif. Par tranche d'âge, le nombre de travailleurs de 60 ans et plus a affiché la plus forte croissance, avec 410 000 individus de plus par rapport à février 2022. Pour l'ensemble des autres catégories d'âge, le nombre d'employés a diminué de plus de 100 000. Notamment chez les moins de 30 ans, le chiffre a baissé de plus de 120 000, soit le recul le plus marqué depuis février 2021. Selon l'Institut national des statistiques, cette dégradation des chiffres est imputable à l'effet de base lié aux bons résultats enregistrés l'an dernier, mais aussi au ralentissement économique en cours. Par industrie, le secteur de la santé et du bien-être et celui de l'hôtellerie et de la restauration ont vu leur nombre d'employés croître, tandis que le commerce en gros et au détail et le service des transports et de l'entreposage ont enregistré un repli. Quant à l'industrie manufacturière, le nombre de ses travailleurs a chuté de 27 000, soit un déclin pour le 2e mois consécutif sous l'effet d'une contraction des exportations. Le gouvernement estime que le ralentissement de l'économie et la diminution de la population en âge de travailler sont responsables de la décélération de la hausse du nombre de salariés. Il s'attend toutefois à ce qu'une recrudescence intervienne avec la réouverture des services en face à face et le retour des travailleurs étrangers.
Culture à présent. La saison 2 de la série télévisée sud-coréenne The Glory a occupé la tête du classement des programmes TV en langue non anglaise de Netflix lors de sa première semaine de sa sortie. Selon le site Netflix Top 10, le deuxième volet, comportant 8 épisodes, a été regardé pendant plus de 120 millions d'heures entre le 6 et le 12 mars, devenant le programme le plus vu durant cette période-là. Ce chiffre dépasse de loin celui de la saison 4 de You, la plus populaire de la catégorie anglophone, avec 75 millions d'heures. Le feuilleton, disponible depuis vendredi dernier donc, décrit la vengeance d'une femme, ancienne victime de violences scolaires, qui lui a laissé des blessures indélébiles. Ce rôle est interprété par l'actrice Song Hye-kyo.
Et pour terminer, le roman Whale de l'écrivain sud-coréen Chun Myung-kwan a été présélectionné pour le prix Man Booker International 2023. Il figure parmi les 13 œuvres de la première liste, dite la longue liste, de cette prestigieuse distinction littéraire britannique dévoilée mardi par l'organisateur sur son site. Selon le jury, Whale est une fiction satirique qui met en scène les vies de 3 personnages vivant dans un village isolé en Corée et qui jette un nouvel éclairage sur les changements que le pays a connus au cours cours de sa transition rapide de la société prémoderne vers celle postmoderne. L'auteur, âgé de 59 ans, a pris la plume tardivement dans sa trentaine. Il a d'abord commencé à écrire des scénarios de films avant d'émerger sur la scène littéraire sud-coréenne en remportant le prix des jeunes écrivains Moon Hak-dong-nae en 2003 pour sa première nouvelle Franck et moi. L'année dernière, il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le film Hot-Blooded. Chun est le cinquième sud-coréen à être nominé pour le prix Man Booker. Han Kang était la lauréate en 2016 avec La Végétarienne. Le prix Man Booker est considéré comme l'une des trois plus grandes distinctions littéraires au monde avec le prix Nobel de littérature et le prix Goncourt. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh Ha-young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.